apôtres tout d'abord, en chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2. Verset 29. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Parce que c'est quelque chose de très fort. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. On le redit. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Christ, c'est Messie, oint, c'est le même mot. Il l'a oint, c'est quelqu'un qui est oint, qui est Messie et Seigneur, celui qui règne. Amen. J'ai bien aimé la prière de Rodrigue ce matin, où il ne s'est pas simplement sauveur, il doit être Seigneur. Amen. Et être Seigneur, c'est tout le problème de la sanctification, le problème de la marche quotidienne avec le Seigneur. C'est beaucoup plus dur que de mourir pour le Seigneur. Marcher tous les jours en crucifiant la chair. Voilà, donc vous voyez, Jésus s'est assis sur le trône de David. Il n'y a pas besoin d'attendre un autre roi. C'est Jésus. Et ce trône, c'est un trône éternel. Alors aujourd'hui, il est assis dans le royaume spirituel, en attendant que ce royaume spirituel vienne sur la terre pour l'établir sur la terre. C'est encore un événement que nous attendons. La deuxième lecture se trouve dans Jean, au chapitre 1er, au verset 14. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. La parole a été faite chair et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Jean-Marc Potenti m'a demandé de continuer son enseignement et de vous transmettre un petit peu plus sur la réflexion concernant le mandat apostolique. Il y en a qui savent ce que c'est que le mandat apostolique? Levez la main. Oui. Voilà. Donc il y a une personne qui dit oui. Mais bon, c'est bien, vous êtes honnête. Parce que c'est pas évident, même moi, j'aurais du mal à vous expliquer comme ça, du but en blanc, le mandat apostolique. Vous savez ce que c'est qu'un mandat? Voilà, on est mandaté, on est... Pardon? Voilà, dans un ordre de mission, voilà. On est mandaté pour la question qui concerne la question apostolique. Alors, apostolique, voilà, ça veut dire quoi, apostolique, l'étymologie du terme? Envoyé, ouais. Mais bon, là, on n'a pas avancé beaucoup dans la compréhension, quand on dit le mandat d'envoi. Mais bon, on voit déjà mieux ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne va pas rester sur place, déjà ça, on voit qu'il y a une action, d'être envoyé quelque part, donc il faut savoir où, comment, etc. Et comment il faut faire, la feuille de route. C'est pour ça que Jean-Marc m'a dit, voilà, je t'envoie une feuille de route. Jean-Marc, je reprends ces termes, sur les trois mots qu'il a prêché, c'était quoi la semaine dernière? Alors choisi, appelé, oui, c'est le mot choisi qu'il a utilisé. Choisi, établi, envoyé. Choisi, établi, envoyé. Voilà, c'était ça, les trois mots, hein, qui résument un petit peu le mandat apostolique qu'il a. Mais ça, il m'a demandé de le développer, pour que nous soyons dans la même vision de RNC, hein, de notre famille spirituelle. Donc il faut creuser cette question, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Nous sommes tous envoyés. Hein, Rémi, tu te sens envoyé ? Ouais, ouais. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'il faut creuser. Hein. Nous sommes envoyés par le Seigneur, hein, individuellement, mais aussi collectivement. Alors individuellement, on arrive un petit peu à le comprendre parce qu'on dit, tiens, notre modèle c'est Jésus. Enfin, Jésus était envoyé, il est venu sur la terre, donc on imagine bien. Mais en tant qu'Église, on est envoyé aussi, vous voyez, en tant que corps. Vous savez que Jésus a une épouse ? C'est qui ? Et l'Église, c'est ? Alors on recommence. Jésus a une épouse. Ce qui est l'Église ? Qui est nous ? Alors dis à ton voisin, c'est toi, c'est moi, l'Église. Vous voyez ? Parce que parfois, on oublie trop. Parfois, les mots restent dans le ciel comme ça, des entités, c'est quoi l'Église ? Alors, c'est pour ça que quand vous critiquez l'Église, vous critiquez vous. Hein, voyez ? Donc, au lieu de critiquer l'Église, agissons pour faire avancer l'Église. Amen. Pour faire avancer le corps de Christ. Choisi, établi, envoyé. C'est d'ailleurs, j'invite pour ceux qui ne l'ont pas encore prévu de venir tout à l'heure à 14h, la formation de membres, parce que en fait ce sont ces trois termes qui sont utilisés pour la vision de notre Église. Et je vous l'expliquerai en 5 modules. Donc en fait on creuse finalement le mandat apostolique. C'est l'appel, la mission et la cible, le but. Qu'est-ce que nous envisageons ? Et donc la dynamique de l'action dans ces trois cibles, c'est établir et équiper avec une organisation et une stratégie. Ça, c'est le but communautaire en tant qu'Église locale, mais aussi plus large. C'est d'être équipé pour le service. Amen. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu envoie des ministères, Éphésiens 4, pasteurs, apôtres, etc., pour équiper les saints. Pour quoi faire ? Pardon ? Voilà. Et c'est quoi l'œuvre du ministère ? C'est cet envoi, hein, pour lequel nous sommes missionnés. Donc toutes ces choses-là, on les voit plus en détail dans la formation de membres que je vous invite à suivre pour que vous puissiez devenir membres conscients de ce qui nous sommes. Notre identité en Christ. Jean-Marc Potenti, en tant que vis-à-vis de notre Église, veut nous accompagner pour construire cette dynamique d'action. Ce n'est pas une passivité, c'est une action. Une dynamique d'action et à établir les ministères. Alors, vous voyez, il faut que nous passions, mais on est déjà passé, hein, simplement il faut aller plus loin, d'une Église passive où on chauffe des chaises. Mais vous ne chauffez pas les chaises, vous avez, voilà. C'est une expression qu'on dit, c'est un peu négatif. Où on va de l'avant pour faire avancer le royaume. Allô ? Voilà, donc voilà, nous sommes engagés, hein, mais je pense qu'il y a encore de la marge, hein, où on peut aller plus loin. Et pour ça, il faut qu'on soit tous un dans la compréhension de ce que Dieu nous demande. En tant que disciples de Christ, nous sommes supposés suivre Christ et la manière dont lui agit. Vous êtes d'accord ? Rappelez-vous, Jean-Marc l'a rappelé aussi, où les disciples, quand ils sont à côté de Jésus, bien sûr, ils évoquent un certain nombre de possibilités d'agir, et il leur dit, dans le monde, les chefs et ceux qui gouvernent vous tyrannisent, ou les tyrannisent, pas que les disciples, tout le monde, les tyrannisent. Mais vous, qui n'en soyez pas de même. Donc la manière de gouverner est basée sur quel principe ? Le service. Vous voyez, ça renverse les choses. La manière de gouverner, c'est le service. Et je vais vous donner un exemple, je ne reprendrai pas, qu'on connaît. Même au service de l'État, il y a des serviteurs de l'État qui peuvent nous donner des leçons en tant que serviteurs dans l'Église. C'est dommage. Mais parfois, il y a des chrétiens qui se servent au lieu de servir l'Église. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un pataquès. Pétaques, à l'intérieur des projets, à l'intérieur des églises. Parce que c'est le monde qui rentre dans l'église. Nous, on est appelés à servir. Vous savez, quand vous servez, vous n'avez pas le temps de critiquer. Ça, c'est aussi un principe. Hein. Quand vous servez, vous êtes déjà... Alors, il y a différents types de services. Hein. Il y a des ministères qui sont là aussi pour savoir... coordonner des travaux, voilà, il faut aussi les respecter. Et ça aide aussi justement à servir. L'ensemble des services fait que c'est un rouage qui marche sans qu'il y ait le moins de grains de sable possible. Hein. Il y a toujours des grains de sable, mais le moins de possible. Parce que vous savez ce que se fait un grain de sable dans un engrenage, hein. Un bloc. Hein. Voilà. Donc c'est l'ensemble des ministères qui doivent agir de concert pour servir le Seigneur et servir les frères et sœurs. Pour cela, il faut étudier l'évangile de Jean, entre autres, que je vous propose pour bien comprendre. Parce que l'évangile de Jean est une clé pour comprendre la mission de Christ, comment il était envoyé et comment il a agi, le modèle d'action de Christ. Et c'est un projet que Dieu a mis en œuvre. C'est quel projet? Le projet de la rédemption. Rédemption, c'est-à-dire rachat. Hein, c'est le même mot, rachat. De quoi nous sommes rachetés? Du péché. Nous sommes rachetés de la mauvaise manière de vivre dans le péché. Et ça, Jésus, il a reçu la mission de remplir ce projet de nous racheter. Ça s'appelle le plan de rédemption, okay, de Dieu pour l'humanité. C'est des gros mots, vous voyez. Mais bon, je les utilise parce que vous les trouvez dans la littérature, donc au passage, vous ne serez pas perdus. Mais j'essaie de les expliquer à chaque fois. Donc c'est un plan que Dieu a prévu pour nous faire passer d'un état de pécheur à un état de personne sanctifiée, personne mise à part pour le servir. Hello ? Sans que le péché n'interfère. Parce que Dieu n'a pas prévu le péché au départ, vous êtes d'accord ? Dans son plan au départ, il n'a pas prévu le péché. Le péché est entré dans le monde par qui? Par le premier homme, Adam. Donc on rentre déjà dans cette histoire. Vous savez que la particularité du christianisme, entre autres, parmi toutes les religions, c'est quoi? Parce que là, je me répète un peu, donc vous le savez. La réponse, vous la savez. Une particularité importante entre le christianisme, seule religion qui a ça, et les autres. D'une part, l'incarnation, tout à fait. D'autre part... Pardon? Oui, la résurrection, c'est quelque chose de particulier. Oui, l'assurance du salut en Jésus. Mais quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus simple, c'est l'histoire. Et l'histoire. L'histoire retourne, revient sur l'incarnation, etc. L'histoire. Le christianisme est une histoire. Il rentre dans une histoire. Et c'est pour ça au XIXe siècle, par exemple, en particulier les protestants, qui étaient pires que les catholiques, ils ont voulu détruire l'histoire. Voyez, au point de dire, Jésus n'est pas ressuscité. Voyez, et les catholiques ont fait Vatican I pour contrer ça. Et les évangéliques, sont allés en Palestine avec les archéologues pour trouver l'histoire, pour montrer que telle ville existait, etc. Parce qu'à un moment donné, ça devenait un mythe. La différence entre le christianisme, c'est qu'il s'appuie sur une histoire et toutes les religions sont basées sur des mythes. Les mythes, c'est quoi? C'est une histoire inventée. C'est tout. Vous voyez, d'un côté, c'est la réalité et de l'autre côté, c'est une invention. Allô? Vous me suivez? Oui, il faut ramener les choses au truc basique pour bien faire des différences, qui nous sommes, ce que nous croyons et ce que les gens autour de nous croient, pour les aider à entrer dans la compréhension de quel est le message que nous véhiculons. En général, on dessine ça autrement. On dit que, en fait, les religions, ils voient l'histoire comme ça. Vous voyez ? L'histoire comme ça. Et l'histoire en cercle. Hein ? Naissance, mort. Naissance, mort. Vous voyez ? Et donc, du coup, c'est l'incarnation. Pas l'incarnation, c'est la réincarnation. Voilà, c'est ça. Hein ? C'est le cas du bouddhisme, c'est le cas de l'hindouisme, etc. On croit à la réincarnation parce qu'en fait, la vraie réalité, c'est ce que vous vivez entre votre naissance et votre mort. C'est ça la réalité, c'est votre réalité. Vous voyez, on ramène tout à soi. C'est l'égoïsme. Hein, mais bon, c'est comme ça. Quand on n'a pas Jésus, quand on n'a pas Dieu, on est centré sur soi. Et donc, on est cyclique. Ça s'appelle le temps cyclique. Voilà, ça, c'est les religions. Et ça, c'est une histoire vraie, réelle, qui est arrivée. Hein. Vous pouvez vous pincer, vous pouvez dire, oui, oui, c'est vrai. Hein. Parce que les religions, c'est du mythe. C'est du mythe, c'est de l'invention, voilà, c'est très beau. C'est très beau. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Blocher, Henri Blocher ? Oui ? Voilà, un apologétiste, hein, c'est-à-dire qui défend la foi. Ben, il a écrit un petit livre, quand il était tout jeune, 30 ans, qui est encore vrai, sur les origines. Et c'est vrai que, je ne sais plus ce que je voulais dire à propos de lui d'ailleurs, que justement il démonte. Parce qu'il y a beaucoup, en particulier dans le monde protestant, mais catholique aussi, hein, ils sont basés là-dessus, parce que Michel les connaît, puisqu'elle fait 25 ans qu'elle est à l'école Notre-Dame. Ils aiment bien ramener toutes les histoires de l'Ancien Testament à des mythes. Voyez-vous, le mythe du passage de l'Égypte. Le mythe, alors ils expliquent, non, il ne faut pas prendre ça au premier degré, ça veut dire ça, et puis les Juifs écrivent ça à Babylone pour expliquer, pour consoler le peuple d'Israël. Enfin, voilà, vous voyez, on ramène ça des mythes. Donc, toute religion, c'est le principe de la religion, hein, mais nous aussi, on fait ça hein, dans notre vie personnelle. Du moment qu'on commence à, nous, à croire à un mythe, et puis à la réalité, on ne vit plus avec le Seigneur, qui est une réalité. On ne vit plus dans le quotidien. Hein. Donc, restons dans l'histoire. Le christianisme est une histoire. Alors l'histoire de Dieu, elle est l'infini. L'infini par là et l'infini par là, d'accord ? Ok ? Mais notre histoire à nous, elle a un commencement. Hello ? C'est quoi le commencement de notre histoire humaine, l'humanité ? La Genèse. La Genèse. Qui n'est pas un conte, qui n'est pas un mythe, qui n'est pas... Et justement, Henri Blocher le démontre très très bien dans son livre. Mais c'est pas facile à démontrer, hein, parce qu'on tombe tout de suite dans l'excès, hein, avec beaucoup de sagesse, il le fait, pour montrer que ce n'est pas un mythe, que c'est quelque chose que Moïse a reçu par révélation. C'est une révélation de Dieu sur les origines, parce que personne n'y était. Hein. Alors, vous y étiez, vous, à l'origine ? La création. Donc, vous voyez, c'est une révélation. Mais Dieu nous révèle quelle est l'origine. L'origine de l'humanité, c'est dans Genèse, c'est avec Adam. Et quelle est notre fin ? Là, c'est un peu plus difficile. Et on se divise entre chrétiens, là. C'est quoi la fin ? C'est plus dur, hein ? J'avoue que c'est plus dur. Parce qu'on rentre dans la division entre les chrétiens, là. Pardon ? Ouais, alors donnez-moi quelques mots que je puisse écrire. Pardon ? Retour de Jésus. Alors justement, tout le problème est où je le mets. Hein. C'est là que les chrétiens sont divisés. Parce qu'il y en a qui le mettent avant, après, etc. Bon, admettons retour, hein, retour de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe après le retour de Jésus ? Pardon ? Pardon ? Ouh, je sens qu'il y a de l'enseignement qui est nécessaire là. Mais je vous l'avais dit, hein, on est divisé hein, là-dessus. Les chrétiens sont divisés. Donc j'ai autant de réponses que de personnes là. Voilà, quelqu'un a 10 000 ans. Voilà, le millénium. Alors habituellement les évangéliques, hein, habituellement les évangéliques, mais c'est en train de changer. Hein. Les évangéliques croient tous que le millénium il est là. Hein, ok ? 1000 ans. Mais c'est en train de changer, hein, parce que les protestants n'y croient pas, catholique, je ne sais pas trop, parce qu'il y a de tout, hein, c'est l'auberge espagnole. Et puis les évangéliques commencent à changer, mettre le millénium ailleurs. Mais bon, je ne vais pas rentrer, c'est pas le sens de mon propos après. Et après les 1000 ans, c'est quoi? Le jugement. Hein. C'est là qu'il y a le jugement. Hein. Donc il y a un trône qui est établi et le roi qui juge. Et après les 1000 ans, qu'est-ce que vous devenez après les 1000 ans? C'est important de savoir où vous allez. Hein? Claire, elle se demande où est-ce qu'elle va, là, mais pour l'éternité. Oh là là, il y a besoin d'enseignement, là. Pardon? Voilà. Il y a une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc il y a une recréation complète. Voilà. Parce que là, la Genèse, elle parle d'Adam, mais elle parle aussi de la création de la, du terre et de la ciel, de la terre et du ciel. C'est l'inverse. Eh bien là, il y aura une recréation de la terre et du ciel. Et on vivra éternellement, effectivement. C'est vrai que cette phase-là, je ne dirais pas qu'elle est moins développée que la Genèse, parce que la Genèse n'est pas très développée non plus. Mais bon, il y a plusieurs interprétations possibles, dans la mesure où l'Apocalypse, c'est une vision de Jean, qui est en fait traduit par des choses qu'il a vues sur la Terre, mais qui n'existent pas sur la Terre. Donc il faut qu'il prenne, il a dû prendre des figures de ce qui est sur la Terre pour expliquer ce qu'il a vu. Donc ça devient très compliqué. Très compliqué, et voilà, les chrétiens sont divisés là-dessus. Hein, mais je ne vais pas parler de division ce matin, mais je vous le signale, hein, il y en a qui mettent les 1000 ans avant, qui mettent les 1000 ans pendant, qui enlèvent les 1000 ans. Voilà. Toute cette phase-là est assez floue, et qui est de l'ordre de la division entre les chrétiens. Mais bon, ça joue beaucoup sur la vision. Hein. Bon. Moi, personnellement, j'adopte celle-là, hein, retour. Alors l'enlèvement, ce serait avant. Alors là, il y a encore une phase. Voilà, est-ce que l'enlèvement se fait avant la persécution, tout ça. Il y en a qui commencent à faire des dissections comme le sexe des anges. Vous voyez, à une époque au Moyen-Âge, ils faisaient ça. Ils parlaient du sexe des anges. Donc du coup, ça occupe pendant ce temps-là. Vous ne servez pas le Seigneur. Donc on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais il y a encore un flou sur ce qui va se passer avant le retour. Restons sur des choses simples. Jésus revient. Il règne en partie. Ici, Satan est lié et il y a un jugement éternel qui sépare. Et voilà. Oui. Oui, sur la terre. Sur la terre. Oui, c'est l'Église qui descend. C'est la fameuse pierre qu'on voit dans Daniel, de statue de Daniel, qui heurte la statue et qui casse tout. C'est l'Église qui descend. Donc, effectivement, au départ, il faut qu'elle soit montée. Donc, pour moi, disons, ça justifie ça. Mais bon, ce matin, j'ai pas prévu de vous parler là-dessus. Parce que c'est polémique, pas trop dans les évangéliques, mais en ce moment, les évangéliques sont en train de glisser vers le post-millénarisme, qui effectivement, on en parlera parce que ça fait partie de nos enjeux. Restons sur l'histoire. Vous voyez, donc une histoire linéaire. On ne revient pas sur des cycles. C'est une question de transmission. C'est pour ça que dans notre Église aussi, on croit beaucoup à la famille, l'importance de la famille qui transmet. Depuis mai 68, la plupart des parents ne veulent plus transmettre ou ne peuvent plus parce que les enfants résistent. Vous avez déjà remarqué ? Les mamans ou les belles-mamans, « Oh mais non, on ne veut pas dire ça à une belle-fille parce que ceci, cela, voilà. » Il y a tout un tas de raisons pourquoi on ne transmet plus. Vous voyez ? Mais la transmission, c'est à la base de l'histoire qui progresse. Vous voyez, Michel vous a parlé de Jean-Baptiste, hein, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu une qualité comme ça, de voir à quel point cette famille a pu progresser parce qu'il y a transmission. S'il n'y avait pas de transmission, on va recommencer à zéro pour découvrir l'eau chaude. Tiens, il y a de l'eau chaude au robinet. Ben, c'est super, ça. C'est une invention, quoi. Hein, on n'imagine pas que ça puisse exister avant. Voilà. Mais c'est ça, quand il n'y a pas de transmission, on réinvente tout. Et c'est dramatique parce qu'on perd du temps. Moi, j'aime bien la transmission. J'aime bien étudier ce que nos pères ont fait, Alors, bon, bien sûr, père-fils, parfois, hein, ça se heurte un petit peu. Mais n'empêche qu'il y a de la transmission. Quand il y a de transmission, on peut apprendre pour aller plus haut. Et on peut monter les marches. Parce qu'on n'a pas besoin de faire tous les 40 ans d'expérience et on monte. Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, moi, j'y crois. Et je fais la promotion de ça. Alors revenons à l'histoire. Restons dans quelque chose de simple. Admettons, on va, je ne sais pas, peu importe, hein, ça n'a aucune importance. Mettons, arrêtons ça et ça. Ok. Mon objectif, c'est de vous parler de l'évangile de Jean ce matin. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean fait partie de quatre évangiles. Ces quatre évangiles parlent tous du ministère de Jésus sur la terre. On est d'accord. Entre sa mort, sa naissance et sa mort. On est d'accord. C'est le récit de la vie de Jésus. Les épîtres, après, ce sont des lettres qui ont été envoyées aux églises. Exhortation, doctrine, Paul, enfin tout ça. Mais on parle des évangiles. Il y a combien d'évangiles ? Quatre. Les pères de l'église. Irénée en particulier, Irénée c'était l'un des premiers évêques, 200 et quelques, donc vous voyez, au deuxième siècle, qui était à Lyon. On est compte, on avait quelqu'un de très important à Lyon, Irénée. Et c'est lui qui a établi le canon, c'est-à-dire qui a retenu les quatre évangiles. Parce qu'il y en a plus que ça, hein, il y en a peut-être 10 ou 15 évangiles. Okay, et il y en a qui font partie des évangiles, enfin les autres sont apocryphes, c'est-à-dire qu'il y a des choses dedans qui sont des fausses doctrines, mais il fallait le savoir, hein. Il fallait être inspiré. Hein. Vous voyez, les évangiles, ce n'est pas comme le Coran, hein, qui, où il est tombé du ciel. Hein. Pour les musulmans, c'est des versets qui sont tombés du ciel. Hein. Ce qui fait qu'ils les prononcent qu'en arabe, etc. Non, ce n'est pas magique. Les évangiles ont été écrits par des apôtres et qui ont été sélectionnés parmi un ensemble de récits. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marie, il y a l'évangile de Thomas, il y a l'évangile de tout un tas d'évangiles. Hein, okay, et les ont retrouvés, figurez-vous, en 1947, dans une grotte en Égypte. Ils les ont retrouvés. Okay, pardon? Dans une grotte à Nag Hammadi, c'est près du Caire. Et ils les ont retrouvés. Incroyable, ça. 2000 ans, on ne savait pas ce que ces évangiles disaient. Mais Irénée, qui ne le savait pas non plus à son époque, il les a dénoncés. Il a dit, ces gens-là, ils annoncent ça, ça, ça. Et comment il a fait? C'est un apologiste incroyable, Irénée. Parce qu'en fait, il regardait les fruits. Jésus a dit, regardez-les aux fruits. Et dans son livre, dans son recueil d'apologétique, « Défendez la foi », il disait, voilà ce qu'ils font, etc. Et à partir de ce qu'ils faisaient, il disait, c'est ça qu'ils enseignent à l'intérieur de leur cercle fermé. Et c'est ce qu'il dénonce dans 1 Timothée 2,5 quand il dit que la femme, je veux pas que la femme prenne la parole, il parle de ça. Nous, on cherche midi à 14h, on coupe les cheveux en quatre et tout ça, mais il dit simplement ces femmes-là, et il répondait ces évangiles-là. Il dit, je veux pas que la femme dise ça, il a jamais dit que la femme ne devait pas parler. Mais vous voyez, quand on est inculturé, on prend un peu ses désirs pour des réalités, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas que la femme n'a pas le droit de parler dans l'église, mais il ne veut pas qu'elle dise ça, c'est forcé, c'est une hérésie. Et qu'est-ce qu'elles disaient ces femmes-là qui, en fait, répondaient ces hérésies-là? Ben, il disait dans ces évangiles-là que le premier, c'était qui? C'était Ève. C'est ça qui répondait. Lisez votre Bible. C'est ça qui répondait. Il disait que Ève est née avant Adam. Qu'est-ce que dit la Genèse? Il dit que Adam est né avant Ève. Vous me direz, mais attendez, ça change quoi? Ben, ça change tout, c'est ça le problème. C'est que c'est un petit détail de rien du tout. Parce que Dieu a fait, parce qu'on est dans l'histoire. Vous voyez, si on n'est pas conforme à l'histoire, on rentre dans le mythe. Vous voyez, on raconte un truc. Pourquoi s'opposer à ce que Dieu dit? Dieu a dit, Dieu a fait Adam, et c'est quoi? C'est pas parce que Ève est moins importante qu'Adam, simplement c'est comme ça qu'il l'a fait. Mais eux, ils enseignent l'inverse. C'est Ève qui a été créée avant Adam. Tout ça parce qu'Ève, elle a dormi et qu'elle l'a réveillée. Enfin bon, c'est une histoire de dormir debout. Non, mais lisez-les. Lisez-les, les évangiles. Hein. Moi, j'ai failli vomir quand j'ai lu. À un moment donné, j'ai fermé parce que j'en pouvais plus. Hein. L'évangile de Thomas, entre autres. Hein. C'est horrible. Il n'y a pas de sens, etc. Mais c'est ça qui excite les gens. Ils préfèrent lire ces trucs-là parce que voilà, c'est rempli de mensonges, de trucs, mais c'est, vous voyez, le mensonge est toujours Pepsi, quoi. Hein. Voilà, on a envie. Non, bah, restez dans la simplicité de l'évangile. Dieu parle de ce qui s'est passé, histoire. Simplement, restons à cette histoire et vivons l'histoire. Alors, dans cette histoire, je vais en arriver là, dans cette histoire entre la Genèse. Alors, dans la Genèse, ben, il y a des milliers d'années entre la création de la terre, mais restons à la création d'Adam. Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Entre là et là, qu'est-ce qui s'est passé au milieu de cette histoire? Pardon? La loi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire chrétienne, dans cette histoire de l'humanité, si vous voulez, qui a tout fait basculer? Pardon? Quand même, on est dans une église chrétienne. Merci. Ce qui s'est passé, c'est qu'une croix a été dressée à un moment donné. Ouais. Okay. On reste dans l'histoire. C'est pour ça, Christ mort et ressuscité, quand ça devient un mythe, on n'est plus dans le christianisme. Christ mort et ressuscité, c'est une histoire. Et aujourd'hui, on peut la dater il y a 2000 ans. Mais cette histoire, cet événement, ça s'appelle d'ailleurs un kairos, pour ceux qui connaissent un peu le grec, ça s'appelle un kairos. Le kairos, c'est tout simplement la conjonction des événements, tu vois, ça c'est un événement, l'événement de mort, avec un chronos. Vous connaissez le... Ça y est, il recommence. Vous connaissez le chronomètre? Tac, 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 métro, boulot, dodo, tac, 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 tac. À un moment donné, Dieu intervient dans l'histoire. Kairos. Il fait un événement. Ça, c'est le Kairos. L'intervention de Dieu. Dieu est intervenu dans l'histoire humaine. Pourquoi faire? Quel est... Alors ça, ce Kairos, si vous voulez, de la croix, c'est pour ça que Paul a dit, moi je ne connais qu'une seule chose, la philosophie, les bonnes paroles, tout ça, eh ben, je m'en moque. Moi je regarde ça comme de la puanteur. Tout ce que je veux savoir au milieu de vous, c'est la croix, Christ crucifié, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Amen. Mes chers amis, en tant qu'évangéliques, nous ne serons plus évangéliques si nous oublions la centralité de la croix. Je vous le dis. La centralité de la croix. Peut-être que ça vous paraît banal ce que je dis. C'est très important ce que je dis. Très important. Parce qu'aujourd'hui, on va vers d'autres centralités que la croix. La croix est au centre. Alors mes amis, non seulement de l'histoire humaine, mais de l'histoire du cosmos tout entier. Du cosmos tout entier. De la création tout entière. Colossiens le dit. Paul le dit. Paul, il a cette révélation. Il a dit tout subsiste en lui. Et imaginez que tous les grands chercheurs du monde entier, les physiciens, ils s'en aperçoivent. Ils disent, c'est pas possible. Oui. Parce qu'en Christ, tout subsiste en lui. Les atomes, toutes les forces, etc. Tout ce qui est maintenu ensemble. Hein, c'est le premier chapitre de Colossiens. Moi, quand je lis Colossiens, j'ai envie de me mettre à genoux. Je dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Quand vous lisez ça, vous pouvez tirer sur le chapitre et en faire 10 000 pages à partir de Colossiens 1. C'est extraordinaire. Ça montre toute la centralité de Christ et surtout de la croix. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi la croix est aussi importante? Bien sûr, la mort et la résurrection, hein, la croix, 3 jours après. Pardon? Alors je vous écoute, celui qui a le bon mot, je le retiens. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est aussi fondamental que la croix est un événement dans toute l'histoire cosmique, bien sûr humaine, aussi important? Je suis en train de vous donner les billes. Hein. Oui, mais plus que ça. Hein. Ça fait 2 fois que je vous donne les billes. Hein. Je vous donne les billes. Hein. Pardon? Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. que ça, plus que ça, plus que ça. Plus que ça. Je vais vous faire découvrir l'évangile de Jean, vous allez le relire avec des nouveaux yeux. C'est une recréation de toute chose. Non, pas que Dieu en nous. De toute chose. Quand vous sondez ce mystère, vous êtes dans l'admiration de ce que de la croix. C'est une recréation de toute chose. Vous connaissez ce verset dans Romains qui dit que la création soupire ? Ok. Les fils de Dieu. Eh ben, c'est parce que le fils de Dieu qui est mort ressuscité, c'est lui qui va empêcher de soupirer la nature. Parce que c'est prévu que tout ici dans l'histoire va être renouvelé. Mais tout s'est passé à la croix. Tout s'est passé à la croix. La croix, si vous voulez, c'est intemporel. C'est bien sûr dans l'histoire, mais c'est intemporel. C'est-à-dire que c'est le kairos de Dieu dans l'éternité qui a été planté. C'est pour ça, si vous touchez à la croix, vous êtes mort spirituellement. Vous êtes mort spirituellement. Il n'y a plus de sens en dehors de la croix. Alors je ne sais pas quelle heure il est, me laisse emporter. Juste pour terminer l'introduction sur l'évangile de Jean, il y a 4 évangiles, vous les avez là-haut. Hein, ok, ça c'est une figuration, un symbole, un signe qui renvoie à une réalité derrière. Hein. Il y a un signe qu'on va changer ici, vous allez voir, mais ce n'est pas grave parce qu'un signe n'est pas suffisant pour la réalité. Une réalité, c'est une réalité. Le signe, c'est un élément de la réalité. Donc il y a Matthieu, le roi couronné, le messie souverain, hein, qui est en violet parce que c'est la couleur de la prêtrise, hein, couleur royale, couleur de la prêtrise. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous voyez, ça se suit, hein, sauf qu'il commençait par le dernier. Matthieu, messie souverain. Marc, la croix, qui renvoie à quelle image du tétramorphe d'Ézéchiel ? C'est le bœuf, figure du bœuf. Là-bas, c'est la figure de l'aigle, ici, c'est la figure du bœuf. Le bœuf, c'est quelqu'un qui est fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quand vous tirez une charrue, sauf qu'il s'écroule par terre, il va continuer à tirer. Jésus est allé jusqu'au bout. C'est l'image, une image, vous voyez, d'une réalité, mais il y a d'autres images. Ensuite, Marc-Luc. Luc, c'est la coupe, c'est l'alliance nouvelle, c'est le ciel, c'est la couleur de l'alliance, le bleu. Et c'est l'homme parfait. Luc, dans l'évangile de Luc, on présente Jésus comme l'homme parfait, qui a accompli la loi. Où Luc, il a pris soin de demander à tous les témoins oculaires de vérifier toutes les phrases dans lesquelles il mentionnait ce que Jésus a fait. Vous voyez, cette rigueur. Et la colombe, c'est l'évangile de Jean. Sauf qu'on mettra une cruche à la place. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est la force, c'est le lion de Juda. Donc on peut le représenter de différentes manières. Okay. La cruche, pour moi, je pense que c'est moins charismaniaque que la colombe, dans le sens où c'est l'onction. L'onction. Jésus a reçu l'onction. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a reçu l'onction, quand il est allé dans le temple ? Il a dit, le jour est arrivé où je guérirai. C'est Isaïe qui cite, hein, où il a la mission de guérir, la mission de soigner, la mission de libérer, la mission de baptiser de l'esprit. Voilà, c'est bien sûr, ça c'est juste le baptême de l'esprit, mais le baptême de l'esprit en soi ne sera rien si ce n'est pas pour libérer des captifs. Amen. Vous voulez libérer des captifs ? Voulez-vous même être libéré ? Pour moi, c'est le plus important. C'est plus important que de parler en langue, même si le parler en langue est important. Amen. Voilà. Donc vous voyez, les symboles renvoient à certaines priorités. Pour moi, c'est libérer des captifs. Et combien nous sommes captifs ? Combien de gens sont captifs ? Et c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant à Elsa, je ne sais pas combien de fois je le dirai, qu'elle a relevé ce défi. Hein, parce que moi, je ne pouvais pas tout faire, hein, je ne peux pas être partout. J'aurais aimé faire ce qu'elle fait. Mais voilà, il faut un appel pour libérer les captifs. Amen, c'est extraordinaire. Vous savez que dans le ciel, il y a de la joie. Quand les captifs sont libérés. Amen. Vous ne croyez pas ? Il y a de la joie. Amen. La joie n'est pas quand nos émotions sont attisées. Okay ? C'est subjectif, c'est nous. Mais la joie, c'est quand on voit des pécheurs se repentir. quand on voit des vies changer, quand on voit des familles réconciliées, quand on voit des nations réconciliées. Amen. Moi, en tout cas, j'aspire à ça. Ça, c'est mon cœur. Et je sais que c'est le cœur de Jean-Marc aussi. Et on le partage ensemble. Amen. C'est pour ça qu'on veut marcher main dans la main. Alors, je reviens à notre histoire et du Kairos. Okay. C'est l'évangile de Jean qui le porte. L'évangile de Jean parle de ce Kairos. Je vais lire premier épître de Jean. Vous savez que l'évangile de Jean est tout à fait particulier. Il n'est pas du tout construit pareil que les autres évangiles. Vous le saviez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un prologue et un épilogue. Oh, c'est encore du grec, je suis désolé. Hein. C'est pas moi qui ai fait le français. Hein. Prologue, c'est le discours avant. Et l'épilogue, c'est le discours après. Donc vous avez le premier chapitre et le dernier chapitre, vous les coupez, et vous avez l'évangile de Jean qui relate la vie de Jésus. Mais vous avez un prologue qui introduit l'évangile et l'épilogue qui le termine. Et le prologue, je vous le donne en mille. Pardon ? J'entends rien. Bah dis donc, tu sais tout, toi ? Waouh, Laurence ! Mes respects. Mes respects. Effectivement, le prologue de Jean, c'est la nouvelle Genèse. Quand vous lisez le prologue, et là, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous faire l'étude qui va avec, quand vous prenez l'évangile de Jean et le prologue de Jean, c'est la nouvelle Genèse. C'est exactement le jeu. C'est-à-dire Jean, il a vécu jusqu'à 99 ans. C'est l'apôtre qui est mort le plus tardivement. Il a presque franchi le premier siècle. Il est mort juste quelques années avant la fin du premier siècle. L'évangile de Jean, vous savez, c'est celui qui avait la tête sur l'épaule de Jésus. Il était très proche de Jésus, dans l'intimité. Okay. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Il a beaucoup fait une maturation dans sa vie spirituelle. C'est quelqu'un qui est très mature dans la foi. Pas comme Pierre, qui a des qualités, hein, mais qui était fonceur, tout ça. Voilà. Non, Jean, il est posé. Et tout son évangile est posé. Et tous les pères de l'Église, tous ceux qui nous ont précédés, comme je vous le dis, je crois à la transmission, ils sont vraiment au chapeau devant l'évangile de Jean. Ils l'appellent la perle. Bon, les pères de l'Église, c'est appelé la perle, et il y a même un autre nom, c'est le joyau. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez le prologue de Jean, vous avez la nouvelle Genèse. Et pourquoi la nouvelle Genèse ? Parce que c'est la recréation. Si vous lisez beaucoup Genèse, hein, je vous propose de lire Jean 1. Parce que Jean 1, eh bien, c'est la recréation du nouvel Adam. Oui. Vous saviez qu'il y a deux Adam ? Le premier et le deuxième. Okay. Et c'est qui le deuxième ? Ben, c'est bien. Vous savez tout ? Adam, qui vient de la terre, c'est le premier homme dont nous sommes héritiers naturellement. D'accord ? Donc je reprends l'histoire. Vous la compreniez bien. L'histoire commence avec le premier Adam et se termine, bon, admettons là le retour de Jésus et le millénium, donc se termine là et on aura un nouveau corps. Voilà. Donc ça, c'est l'Adam naturel. Il y a un autre mot pour naturel, c'est chair. Hein, quand on dit marcher dans la chair, c'est marcher dans le naturel. Okay. Mais quand Jésus est venu, et qu'il est mort à la croix et ressuscité, il a commencé un nouvel Adam qui, lui, est éternel. Alors, le deuxième Adam, il est spirituel. D'accord ? Il est spirituel. Quand il y a la résurrection, quand il y aura la résurrection des morts, okay, nous aurons un nouveau corps, hein, qui vient là, et nous serons de nouveau rétablis avec un corps nouveau. Okay. Mais le corps ancien, il va déjà tomber avant, hein, puisqu'on sera mort avant la venue de Jésus. Enfin, on ne sait jamais s'il revient avant. Mais en tout cas, il tombe en poussière. Adama, la poussière. Le deuxième Adam, c'est Jésus. C'est un esprit vivifiant. Il ne peut pas mourir. C'est la vie de Dieu. Et c'est pour ça que quand on est de nouveau, on reçoit eh bien, ce nouvel homme. On devient, quand Jésus parle dans Nicodème 3, il faut que tu naisses de nouveau, que tu rentres dans le monde de ta mère et que tu naisses, etc. Il parlait de ça. Mais c'est lui qui a établi le deuxième Adam. D'accord ? Et donc, pendant cette période-là, est-ce que Jésus est déjà revenu ? Bon, vous me rassurez ? Ok. Donc, ça veut dire qu'on est là, quelque part. Ok ? On est là, d'accord ? Aujourd'hui, c'est comme dans le métro, vous voyez, on est là. Ok ? C'est important de savoir où on est. On est là. Et qu'est-ce que ça veut dire, là ? Mais ça veut dire qu'on a un corps naturel et on a une vie spirituelle. Qu'est-ce que dit le premier enseignement du TQP ? Voilà. Marchez par l'esprit et vous ne vivrez pas selon la chair. C'est un ordre. C'est une décision. C'est pas naturel. Et donc là, on vit une tension. On vit une tension. Une tension entre la chair et l'esprit. Une tension entre l'éternité qui est en nous et la chair qu'on hérite de nos pères, qu'on hérite de l'environnement, qu'on hérite. Et c'est de ça qu'on veut libérer les gens. Voyez, on ne veut pas les libérer éternellement, Jésus l'a fait. Hein, mais on veut les libérer de tout ce qui les empêche de vivre par l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de vivre par l'esprit. Parce que dans notre tête, il y a un cerveau. Et ce cerveau, il est conduit par le monde, la chair. Et Dieu dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde parce qu'il est inimitié contre Dieu. C'est 1 Jean 2:5, hein, l'évangile de Jean. Inimitié contre le monde. Ça, si vous voulez, ça représente le monde. Chair, c'est sarx, c'est monde. Okay, le monde avec tout ce qu'il représente. Les pensées, les habitudes, les cultures, de manière générale, la culture hein, qui véhicule tout ça. Et nous devons être libérés de ça pour vivre le plus pleinement possible la destinée. Parce que la destinée, elle est là, elle n'est pas là. Là, c'est la fin, hein, vous voyez. Ouais. La destinée, elle est là. La destinée éternelle, pour chacun de nous, elle est infinie. Nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Et les propriétés qu'il nous donne, nous les garderons. C'est ça la particularité de notre existence. Voilà, donc nous sommes dans un kairos. Et là, l'évangile de Jean, je vous donne quelques pistes pour montrer que c'est la Genèse. C'est-à-dire que quand Jean a écrit le prologue, il n'a pas fait par hasard. Alors, je ne sais pas comment il l'a fait, hein, j'étais pas là-bas. Est-ce qu'il a pris la Genèse, il a copié ? Est-ce qu'il a reçu une révélation directe ? Je n'en sais rien. Mais c'est la Genèse. Ok ? Tu le savais, ça ? Il apprend Colin Urquhart, ça ? Donc, vous voyez, Colin Urquhart m'a précédé dans l'enseignement. Regardez, Jean 1:1. Au commencement était la parole. Prenez la Genèse, au commencement était Dieu. Ouais. Au commencement. Premier jour, au commencement était la parole. Alors là, c'est la parole qui est la parole créatrice de Dieu. Ok ? Ensuite, après, je vous emmène au verset 29. Qu'est-ce qui est marqué au verset 29 ? Je vous écoute. Hello ! Qu'est-ce que vous avez, vous ? Hello ! Le lendemain. Le lendemain, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire deuxième jour. OK ? Donc, le lendemain, deuxième jour. Verset 35. Troisième jour. Verset 45. Lendemain. OK ? Et maintenant, allez au verset 2:1. 1, 2, 3. Est-ce que c'est du hasard, ça ? Qu'est-ce que Dieu a fait au septième jour à la Genèse ? C'est reposé. Et qu'est-ce que Jésus a fait le septième jour ? Hello ? J'écoute ? Pardon ? C'est les noces. Réjouissez-vous, c'est les noces. Il a fait la fête. Il s'est reposé. Vous voyez ? C'est les noces. Alors, en hébreu, c'est noces au singulier. Et en français, on met les noces au pluriel, je ne sais pas pourquoi. Les noces de Cana. Peu importe, c'est la noce ou les noces de Cana. Toute la symbolique, elle est là. Les noces de Cana, quand on lit les noces de Cana, moi au début, j'étais un peu étonné. Je dis, tiens, c'est bizarre comme noces, parce qu'on ne parle pratiquement jamais du marié. De la mariée, jamais non plus. On parle de Marie et de Jésus. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est bizarre comme noce où on parle de l'intendant, on parle de ce qui se passe dans les coulisses, mais on ne parle pas de la noce. Mais c'est voulu, les amis. C'est voulu. C'est voulu. Et là, le temps me manque pour montrer que la noce, les noces de Cana, c'est le premier signe. C'est pas un miracle. C'est un signe que Jésus a fait. C'est l'évangile. Vous savez, Jean a pris soin de que chaque mot soit bien utilisé. En fait, Jésus, il a fait un signe. Lisez vos Bibles. Hein. Si c'est faux, vous me reprenez. Okay. Mais si c'est vrai, prenez-en de la graine. Il a fait un signe. Le signe de changer l'eau en vin. Eh oui. Ce signe, Jean ne l'a pas appelé miracle parce que la Bible ne veut pas qu'on s'attache au spectaculaire. Vous m'entendez ? Dieu ne veut pas qu'on s'attache au spectaculaire. Mais il veut que par le signe, on renvoie à une autre réalité. Là, le signe, il renvoie à la joie qu'il y a dans le ciel. Il renvoie à la révélation, l'accomplissement de Jésus, ce qu'il va faire. Et figurez-vous que Jean, il a décrit 7 semaines dans son évangile, les 7 dernières semaines de Jésus. Vous voyez ? Ça aussi, c'est une particularité des autres évangiles. 7 semaines. Pourquoi le chiffre 7 ? Parce que c'est l'accomplissement. L'accomplissement de quelque chose. Après, vous avez un autre élément de la Genèse, c'est les 6 jars qui ont été remplis par les serviteurs. 6. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la musicologie, enfin l'harmonie musicale ? Quand on fait un... Alors tu m'aides un petit peu, parce que les termes, je les ai oubliés. Pardon ? Oui, mais quand tu fais un accord qui n'est pas complet, comment ça s'appelle ? C'est pas imparfait, mais tu fais un si bémol avant de faire le do. Pardon ? Pardon ? Diminué ? Ouais. Ouais, non, quand j'ai fait de la musicologie, on m'a appris ça. C'est-à-dire que, vous voyez, vous créez une attente chez les gens. Vous avez entendu, vous avez dans votre cerveau, vous avez envie de faire l'accord parfait. Vous voyez, dans votre... Et du coup, c'est une attente. Et on joue, on utilise ça. Mais il y a certains qui ne font que ça. On connaît des musiciens chrétiens, ils jouent pas de l'harmonie. Non, mais bon, une fois qu'on connaît un peu les techniques, hein, c'est comme dans les poésies, tout ça, il y a des techniques. Hein, c'est pas, hein, on a eu des gens qui nous précèdent. Mais en musique, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous faites l'accord, bon là, je pourrais pas parce qu'il n'est pas allumé. Vous faites l'accord, vous avez envie, tu peux le faire, non ? Suspendu, il est suspendu. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez envie dans votre cerveau, et après vous faites l'accord parfait. Vous voyez ? Eh bien, c'est ça. Le 6, c'est un accord suspendu pour aller au 7. Le 7 n'est pas encore là, mais il va venir. Et ce qu'on appelle le déjà pas encore du royaume. On est déjà dans le royaume, mais il n'est pas encore là. Donc, on est dans une attente. Et cette attente, c'est la venue de Jésus, bien sûr, des noces finales. Mais les noces de Cana, c'était déjà un précurseur, c'était déjà quelque chose qui était annoncé de ce que Dieu allait faire et qu'il se réjouissait déjà de cela. Amen. Donc les noces, c'est le signe de quelque chose qui va se passer. Amen. Voilà, je vais en arrêter là. Je vous ai donné juste les grandes lignes de cette mission que nous avons, c'est d'être une mission, d'être les envoyés de la croix. Et Paul disait, je ne connaître parmi vous rien d'autre que la croix et la croix seule. Quand on comprend ce mystère, quand on comprend cette profondeur, eh bien on ne joue pas avec la croix, mais on la vit pleinement. et c'est ce qu'on va vivre pendant le repas, hein, c'est au centre la croix. Et devant la croix, on se repent. C'est là que les péchés ont été pris. À la croix, on ne fait pas le fanfaron. On dit, Seigneur, je me repens. Parce que je sais que tu as porté mes péchés. Et là, toute la dimension de la renaissance est pour chacun de nous, pas simplement une fois par dans notre vie, mais nous avons besoin d'être renouvelés dans cette vigueur du Seigneur pour nous sanctifier, pour nous mettre à part. Non pas pour vivre dans des grottes, hein, nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme le monde, nous ne raisonnons pas comme le monde, nous ne faisons pas comme le monde. Donc, il y a ce travail de sanctification qu'on a tous besoin de faire ensemble et nous exhorter, tant que le Seigneur n'est pas revenu, eh bien de vivre au mieux cette parole créatrice de Jésus qui va nous libérer, qui va nous donner cette dimension de l'espérance dans laquelle nous sommes engagés. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as, Seigneur, révélé ces choses à Jean, qui les a transcrites dans cet évangile. Seigneur, donne-nous de les méditer, donne-nous de les comprendre, donne-nous de réaliser, Seigneur, ce que tu as fait à la croix. Et Seigneur, que c'est vraiment cette dimension de l'histoire qui a tout bouleversé, Seigneur, parce que tu es venu pour changer la donne, changer les choses. Et nous t'en remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. J'invite Yves, avec les personnes qui sont